Je vais partager ce matin avec vous une réflexion sur deux psaumes de la Bible, les psaumes 42 et 43. Oui, alors c'est peut-être le moment pour les enfants de suivre. Voilà, je vais partager donc une réflexion sur deux psaumes. Vous allez le voir, en fait ces deux psaumes n'en forment qu'un, mais ça c'est pas important. Vous allez voir que ces psaumes abordent un thème dont on parle rarement, c'est le thème du découragement et de la dépression. Je vais essayer de partager avec vous le fruit de ma réflexion, espérant que chacun puisse y trouver source de renouvellement et surtout d'encouragement, parce que c'est ça le but de ces psaumes. Il s'agit des psaumes 42 et 43 que nous allons lire dans un instant. Tout homme connaît à un moment ou à un autre de sa vie l'expérience du découragement. Il y a les découragements passagers qui ne durent qu'un instant, qu'une journée, que quelques journées, dus à la fatigue, à une expérience difficile que nous venons de traverser, ou bien souvent à des raisons qui restent inconnues. Et puis il y a des découragements qui s'installent, qui durent plus longtemps, nécessitent soins et repos. On parlera alors de dépression. Nous ne sommes pas tous égaux devant ce problème. Devant des situations adverses identiques, nous réagissons différemment les uns des autres. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnages bibliques, et parmi les plus grands, parmi ceux dont le ministère a été le plus fécond, eh bien, ont connu aussi ces temps de découragement. Un exemple flagrant, j'allais dire, c'est le grand prophète Élie qui, fuyant devant la reine Jézabel, s'écrie « C'en est trop maintenant, Seigneur, prends ma vie. » On connaît Job aussi. Jérémie, voilà un grand prophète, un prophète doux et sensible, un prophète dont le ministère a été difficile, mais qui a porté un fruit qui continue à donner des résultats aujourd'hui. Jérémie, au chapitre 20 de son livre, dit ceci, alors qu'il est dans une phase de grand découragement. Maudit soit le jour où je suis né, le jour où ma mère m'a mis au monde. Maudit soit celui qui porta à mon père la bonne nouvelle. Mais il y a aussi Moïse. Il a eu ses heures de fatigue, de découragement. Il y a Saül. Chez lui, c'était chronique. C'est quand même le premier élu, oint par le Seigneur pour être roi d'Israël. Il y a Jonas qui demande aussi la mort. Vous voyez, ça en fait beaucoup et je m'arrête là. Tout ça pour dire que Les moments de déprime, de découragement font partie de la vie des personnages bibliques, mais font partie aussi de nos vies de chrétiens. Et on aurait tort de nier ou sous-estimer cette fragilité qui est inhérente à notre humanité. Alors quand le découragement est là, on le sait, rien ne va plus. On n'éprouve plus l'envie d'aller de l'avant. Comme on dit, le ressort est cassé. On se sent vidé. À quoi bon ? À quoi bon ? On devient sombre. Le visage est triste. On est irritable. Et souvent, on s'isole. La foi même peut perdre sa saveur. On n'a plus le goût à la prière, à la lecture de la Bible. De plus, ces situations d'effondrement sont difficiles à partager pour le chrétien. Il a peur d'être jugé ou d'entendre toujours les mêmes paroles qui partent d'un bon sentiment, mais qui sont parfois inappropriées à la situation. Alors je vous propose, après cette introduction, d'écouter la lecture de ces deux psaumes, psaumes 42 et 43. Vous savez que la numérotation est quelque chose qui est arrivé bien plus tardivement. Les écrits bibliques de l'Ancien ou du Nouveau Testament n'ont pas de chiffres pour les paragraphes ni pour les versets. C'est pour pouvoir communiquer qu'on a par la suite fait ce travail. Comme une biche qui soupire sur le lit du torrent, ainsi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. Moi je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Non, pardon. Quand irai-je, paraîtrai-je devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je veux me souvenir quand je me répands sur moi-même. Je marchais avec la foule, je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu, dans les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, je suis abattu, c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le désert du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle l'autre abîme au bruit de ses cascades. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit son chant m'accompagne, c'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi? Alors que mes os se brisent, mes adversaires m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Donne-moi d'échapper aux hommes trompeurs et injustes. Tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je me traîner l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta loyauté, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sacrée et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la lyre, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors, je ne vais pas analyser dans le détail ce psaume. Mon propos va être maintenant d'essayer de mettre en lumière quelques mouvements qui soulignent une réelle situation de déprime chez le psalmiste. Et surtout, comment celui-ci va surmonter son état de découragement. Alors, quelques remarques générales. L'auteur, on ne sait pas. Les quelques éléments qui sont donnés dans le psaume laissent penser qu'il s'agit soit d'un déporté qui est emmené loin d'Israël, peut-être vers Babylone, un exilé dans le nord, injustement, semble-t-il, écarté de sa charge, ou un prisonnier en route vers une terre étrangère. C'est donc quelqu'un qui vit une épreuve particulière. Certains ont donné à ce psaume le titre, le psaume du déprimé. La déprime, c'est un mot vague qui couvre tout et qui, à cause de cela, est bien pratique. La déprime peut très bien couvrir un moment passager de découragement comme un état, une situation plus lourde. En fait, vous l'avez perçu, ce psaume est un long monologue du psalmiste découragé. Le psalmiste se parle à lui-même. Et ce monologue est interrompu à trois reprises par un refrain toujours le même. Ce refrain vient casser le processus du découragement. Pourquoi te décourager, mon âme? Pourquoi gémir? Espère, espère en Dieu, lui, le salut de ma personne. Et là, l'hébreu est intéressant. Si on traduit littéralement, il faudrait dire « lui, qui est délivrance de mon visage. » Et ça, c'est beau. Le Seigneur nous libère d'un visage triste pour nous couvrir d'un visage plus rayonnant. Et là, j'invite l'opérateur à projeter la diapo numéro 1. La première strophe de ce psaume. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi. Ô Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Cette première partie exprime une situation de quête. Mon âme languit, mon âme a soif de Dieu, une soif à en mourir. On n'est pas là dans le sens mystique du mot ou poétique. Très concrètement, le psalmiste a perdu le contact avec Dieu, la présence de Dieu, cette présence qu'il ressentait dans le temple. Il souffre cruellement de cette absence. Voilà, je voudrais tant de nouveau être devant Dieu. Je voudrais revoir la face de Dieu. Quand donc paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Ici, nous pouvons souligner un premier aspect de la déprime. L'enfermement dans le passé. Un passé qui, souvent d'ailleurs, est idéalisé. Avant, j'étais quelqu'un. Je marchais à la tête de toute la procession qui se rendait en chantant vers le temple. C'était peut-être, en tout cas, c'était un des responsables religieux, peut-être le chef des chantres. J'avais une situation en vue. Les spécialistes nous disent que la dépression est le contraire du deuil. Le deuil, c'est pas à pas prendre acte d'une perte et reconstruire l'avenir avec de nouveaux éléments. Parfois, il faut du temps, beaucoup de temps. Mais c'est dans cet espoir, tout de même, de continuation. On clôture le passé et on s'ouvre à ce qui est devant. On vit dans une vie des deuils en permanence. Il y a bien sûr les décès, ces ruptures, ces séparations douloureuses, la perte d'un être cher. Mais il y a toutes sortes de deuils que nous vivons. Le nourrisson qui passe du sein maternel au biberon, en caoutchouc, vit et doit assumer un deuil. Celui qui perd son travail. Il y a situation de deuil dans toute déception sentimentale. Et dans un couple, le moment arrive assez vite où il faut faire le deuil du mari idéal qu'on avait rêvé ou de la femme idéale qu'on avait espérée. Ça, c'est le deuil. La dépression, c'est tout le contraire. Le déprimé rebâche un passé qui est idéalisé, un passé où il avait une place en vue, et puis pour lui, tout s'est écroulé. Il n'a plus la force d'affronter ni le présent ni l'avenir. Pour lui, le temps se réduit à un moment passé qu'il espère retrouver tel quel. Avant de poursuivre, je vous invite au chant du psaume 42, en l'occurrence, les deux premières strophes, et c'est, comme beaucoup de psaumes de la Réforme, des cantiques qui ont une dizaine de strophes, donc on aura l'occasion régulièrement d'en chanter d'autres. Mais pensons que c'est pour aider les chrétiens à connaître la parole de Dieu que au XVIe siècle on a mis en place dans le protestantisme ces chants, des 150 psaumes. Voilà. Alors, je vous invite à vous lever. À reprendre place. Et nous projetons la deuxième section de ce psaume. Mon Dieu, je suis abattu, mais je me souviens de toi depuis l'Hermon, les sources du Jourdain, qui culminent à plus de 2000 mètres largement. Cette attitude est un début de solution, une bonne disposition vers la guérison, car se souvenir de Dieu, c'est faire mémoire de toutes les œuvres de Dieu, c'est faire mémoire de la sortie d'Égypte, de toutes les délivrances qui ont accompagné la marche des Hébreux dans le désert. C'est évoquer la prise de Jéricho et toutes les victoires accordées. Mais les versets 8 à 11 montrent que le psalmiste n'est pas encore prêt à affronter son avenir. Sa vie maintenant est comparable à un abîme sans fin. Il est roulé par les vagues, les remous qui le ramènent toujours à la case départ. Un abîme appelle un autre abîme. Au bruit de tes cascades, toutes tes vagues et tes remous ont passé sur moi. On croit arriver à s'en sortir et puis voilà, on se retrouve au point de départ. Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Les ennemis, ici, il s'agit pour le psalmiste d'ennemis bien concrets, c'est sûr. Mais c'est là un autre aspect caractéristique chez le déprimé, il désigne souvent, il éprouve la nécessité de désigner des responsables extérieurs. Et s'il n'y en a pas, eh bien c'est Dieu qui est le responsable ultime. Une lecture attentive de ce psaume permet de relever pas mal de symptômes psychosomatiques. Vous voyez le corps brisé, les larmes, l'esprit abattu, l'insomnie, nuit et jour, la tristesse, le visage sombre, l'obscurité. Mais voilà, arrive le refrain. À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. Ce refrain vient couper le discours qui s'est remis pour le psalmiste à tourner en rond. Progressivement, insensiblement, on va le voir, le discours va évoluer. Et je vous invite alors, en restant assis, de chanter la strophe 4 de ce psaume 42. Et nous arrivons à la dernière strophe de ce psaume. Il y a un problème ? Tu peux pas ? Oui ? Voilà. Rends-moi justice, ô Dieu, c'est toi, mon protecteur. On le comprend, la fenêtre est en train de s'ouvrir. Seigneur, je suis dans la détresse. D'accord, je traverse une épreuve difficile. Mais je regarde à toi. Dans cette troisième strophe, les éléments de tristesse et de découragement, peu à peu, sont remplacés par la prise de conscience de la fidélité de Dieu. Quelle que soit l'obscurité qui voile encore son âme, Dieu reste pour le psalmiste sa lumière. Ta lumière et ta fidélité me ramèneront dans ta demeure. Alors peut-être pas physiquement dans le temple à Jérusalem, mais ta lumière, ta fidélité me ramèneront près de toi, dans une union, dans une communion retrouvée. Dieu, toi qui es ma grande joie, et avec toi, je pourrai redémarrer quelque chose de nouveau. Et puis, c'est le refrain final. À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort, de l'épreuve que je vis ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. Les termes du refrain sont inchangés, mais le ton, maintenant, est différent. Si le premier refrain était habité par le découragement, si le second exprimait la confusion dans le cœur du psalmiste, le dernier refrain est une déclaration annonciatrice de la victoire dans la foi et par la foi. Et je vous propose, tout en restant assis, de chanter une nouvelle strophe de ce psaume.
Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir d'un tel effroi quand celui que tu réclames est toujours près de toi? Tourne-toi vers ton sauveur, il apaisera ton cœur et ta chance.
Voilà, on va peut-être faire apparaître le dernier, le refrain. Pierre, oui, voilà. Il est temps maintenant de conclure. Je vais conclure en ouvrant deux pistes. Et en essayant de synthétiser dans ces deux points ce que j'ai essayé de partager. On a mis en évidence le fait que le déprimé fonctionne souvent avec ce qu'on appelle une théologie des œuvres. Si vous voulez, c'est l'exemple du prophète Élie. Comme Élie, le psalmiste a fait résider toute son identité sur ses moments de réussite. Consciemment ou inconsciemment, sa propre existence était justifiée par sa mission, par ses œuvres, par ses actions. Plus ses œuvres étaient brillantes, plus elles étaient fécondes, plus elles étaient spectaculaires. Si l'on pense à Élie sur le mont Carmel, devant tous les prophètes de Baal qui vont être anéantis, plus alors son identité était affirmée. Mais que ses œuvres disparaissent, alors il n'a plus d'identité. Combien de personnes n'existent finalement qu'au travers de leurs œuvres, de leur réussite professionnelle, de leur réussite familiale, de leur réussite sociale. Mais voilà, qu'advienne la maladie, ou la perte de son travail, que le couple se sépare, alors, ces personnes ne sont plus rien. Pour beaucoup de personnes, leur identité, ce n'est pas le nom que leur père leur a donné. Pour nous chrétiens, notre père ultime, c'est Dieu, le Créateur, qui donne le souffle de vie. Mais c'est ce qu'ils font. Alors, lorsque les événements ne leur permettent plus de se tenir au même rang, c'est l'effondrement. La personne ne peut plus s'aimer et elle sombre dans le découragement. Elle pense bien souvent qu'elle ne vaut plus rien. Mais voilà, la découverte que nous faisons avec ce psaume, la découverte qu'a fait le prophète Élie devant la grotte lorsque Dieu se révèle à lui dans un souffle léger, ténu, et lui montre qu'il est toujours là. Cette découverte, c'est que Dieu nous aime, non pas pour ce que nous faisons, Mais pour ce que nous sommes, pensez à ce que dit Ésaïe, enfin à ce que dit le Seigneur à travers la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 43. Le Seigneur dit aux enfants de son peuple, c'est-à-dire à nous tous, aussi, sois sans crainte, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les grandes eaux, les épreuves dans la vie, je serai avec toi, car tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Parole du Seigneur. Et un dernier mot, le deuxième de cette conclusion, concernant le refrain. Pourquoi être abattu et pourquoi gémir sans cesse ? Espère en Dieu. Au travers de ce refrain, le croyant est invité à relever la tête. Là où l'homme ne voit que détresse, abandon, défaite, le croyant aperçoit, discerne l'invisible. La détresse, les difficultés présentes, le découragement ne sont pas niés, mais ils sont dépassés, surmontés par la foi, par l'espérance, par la confiance. Espère en Dieu, attends-toi à lui, dans le calme et la confiance, espère. Le Dieu que le psalmiste a servi, chanté, loué, aimé, ne le délaissera pas. Oui, mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu, lui qui est délivrance de mon visage. Et c'est avec les dernières paroles que nous chantons ce psaume, et je vous invite à vous lever, nous chantons les strophes 8 et 9 pour conclure ce message.
Dans ma nuit, mets ta lumière, dans mon cœur, ta vérité, pour guider jusqu'à son père.
Voilà, je vous invite à prendre place. Nous terminerons notre culte en partageant le repas du Seigneur dans un instant.